Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui. Édition du vendredi 10 juillet 2015, en direct de Washington, Idriss Assédoudia et Anne Albertson. D'abord les titres.
Au Burkina Faso, création d'un cadre de concertation de sages pour aider à résoudre la crise politique actuelle.
L'ONU demande le désarmement immédiat des Imbonerakure pour éviter une explosion de violences meurtrières dans le pays.
En Ouganda, arrestation des deux principaux adversaires déclarés de Yoweri Museveni à la présidentielle de 2016.
Les négociateurs au pourparler de Vienne sur le nucléaire iranien confrontés à leur dernière date butoir aujourd'hui.
La Grèce a soumis hier ses dernières propositions de réforme à ses créanciers.
Le drapeau confédéré sera descendu du Parlement de la Caroline du Sud lors d'une cérémonie ce matin et envoyé en musée. Et ne manquez pas notre rubrique, la Minute Éco, ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, a créé un cadre de concertation de sages, un organe de médiation ayant pour mission, je cite, « d'œuvrer en tant que de besoin ou en temps de crise au rapprochement des positions des acteurs politiques, militaires et civils ». C'est pour trouver, nous dit notre correspondant sur place Zoumana Vonogo, une solution à la crise opposant le Premier ministre Isaac Zida au RSP qui réclame sa démission. Avec Henri Francisque, des extraits du communiqué de la présidence burkinabé parvenu à notre rédaction.
Selon ce communiqué, les membres du cadre de concertation des sages se sont réunis pour la première fois hier sous la présidence de M. Kafando. Il était également convié à la rencontre le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, le général Zagré, chef d'état-major général des armées, le général de brigade Gilbert Diendéré, le lieutenant-colonel Céleste Koulibaly, chef de corps du régiment de sécurité présidentiel RSP. Le président Kafando a précisé à cette occasion les objectifs à atteindre, à savoir la décrispation de la tension sociale actuelle, la sauvegarde de la paix sociale à travers l'unité et la cohésion de l'armée, et la poursuite du processus de la transition vers des élections apaisées en octobre 2015. Pour sa part, le cadre de concertation des sages a demandé notamment que le consensus social sur lequel est fondée la transition soit sauvegardé et consolidé, surtout à 3 mois des élections devant conduire le Burkina Faso au retour à une normalité républicaine. Il propose aussi que le RSP garde le statu quo et la recherche d'une solution définitive avec l'avènement de la normalité républicaine. Le cadre de concertation des sages a également appelé l'ensemble des citoyens burkinabés à travailler à la préservation de la paix sociale pour aller aux élections dans 3 mois et donner à la transition toutes les chances dont elle a besoin pour réussir dans l'intérêt général du peuple burkinabé. Le comité va rencontrer dans les jours à venir la société civile, les partis politiques ainsi que les différents corps de l'armée.
Et toujours à Ouagadougou, le Burkina Faso a accueilli jeudi les dépouilles de 6 soldats burkinabés tués le 2 juillet dans une embuscade tendue par des djihadistes dans le nord du Mali et revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le Premier ministre Isaac Zida était présent mais ne s'est pas exprimé. Selon l'AFP, au moins 500 000 de personnes, en majorité des militaires, ont accueilli les dépouilles.
Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont salué hier l'inculpation de l'ancien leader militaire guinéen Moussa Dadis Camara dans le cadre de l'enquête sur le massacre d'au moins 150 personnes le 28 septembre 2009 à Conakry. Son avocat, maître Jean-Baptiste Djokame Abba, a assisté à son audition à Ouagadougou mercredi par des magistrats guinéens. Il assure que la procédure engagée contre son client n'affecte en rien son intention de briguer la présidence guinéenne. Au micro de notre correspondant Zoumana Wonogo, les explications de maître Jean-Baptiste Djokame Abba.
Je le dis fermement, énergiquement et même clairement que ce changement n'a aucun lien avec son ambition politique. Il ne peut en aucun cas être empêché dans sa conquête de l'exercice du pouvoir. Ceci ne peut arriver que lorsqu'il y a une décision définitive, une décision de condamnation qui le prive alors de ses droits civique de ses droits politiques.
De la déclaration de candidature, de son alliance avec Dalène Diallo à l'inculpation, est-ce que le politique n'a-t-il pas influencé le judiciaire?
Je suis avocat. Les interprétations politiques, pour le moment, je préfère laisser cela aux politiciens interprétés. Donc, si cela a été téléguidé, commandé par le pouvoir, par les politiques, je ne peux moins vous le confirmer parce que je n'ai aucune preuve par rapport à cela. Le seul outil que nous avons, c'est bien le droit. Et nous allons tout simplement parler de droit, pas de politique.
Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a exhorté hier le gouvernement du Burundi à désarmer immédiatement les Imbonerakure, l'organisation de jeunesse du parti au pouvoir, afin d'éviter une explosion de violences meurtrières semblables à celles qui ont souvent ravagé le pays. M. Hussein a affirmé devant le Conseil de sécurité que ses services avaient constaté des dizaines de meurtres depuis deux mois, pour la plupart des attaques de manifestants et de défenseurs des droits de l'homme par des membres des Imbonerakure et des forces de sécurité.
La police ougandaise a interpellé hier les deux principaux adversaires déclarés du chef de l'État Yoweri Museveni à la présidentielle de 2016, a appris l'AFP auprès de la police. On parle ici de Amama Mbabazi, l'ancien Premier ministre, et de Kizza Besigye.
La Tunisie s'est engagée jeudi à faire la lumière sur un incident impliquant au moins un policier et un diplomate sénégalais, assurant qu'il s'agissait d'un acte isolé. Dans une courte vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, un homme, présenté par des médias tunisiens comme un responsable de l'ambassade du Sénégal à Tunis, est entouré par plusieurs hommes qui cherchent à le maîtriser. Un policier vient ensuite l'emmener manu militari, selon l'AFP.
Les pourparlers sur le nucléaire iranien, on aura l'occasion d'y revenir dans un instant.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pour parler maintenant du nucléaire iranien, alors que les pourparlers sur ce programme iranien arrivent de nouveau à une date butoir, les autorités américaines ne cachent pas leur impatience, menaçant même d'abandonner les discussions si nécessaires. Chérubin Dorsey l'explique.
Dans la capitale autrichienne, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré hier jeudi que si des décisions difficiles ne sont pas prises dans la discussion sur le nucléaire iranien, les négociateurs sont prêts à mettre fin à ce processus. La Maison-Blanche a fait écho à cette déclaration en disant que le président Barack Obama ramènerait de Vienne les négociateurs américains si les discussions ne semblent pas être constructives. Même les plus ardents défenseurs de l'administration Obama au Capitole semblaient se résigner au pire.
I'm less optimistic than I was a week ago, it seems.
Le sénateur démocrate Chris Murphy du Connecticut se dit maintenant moins optimiste quant aux chances d'un accord. Selon lui, les Iraniens ne semblent pas enclins à trouver un compromis, mais la Maison-Blanche a toujours affirmé sa volonté de ne pas accepter un mauvais accord sur un dossier aussi crucial que le nucléaire iranien. Dans l'autre camp, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a dit qu'il est prêt à rester à la table des négociations aussi longtemps qu'il le faudra pour aboutir à un accord avec les puissances mondiales sur le programme nucléaire contesté de son pays. Attendons voir ce qu'enfantera cette nouvelle journée.
La Grèce a soumis ses dernières propositions de réforme économique au ministre européen des Finances, qui doivent décider s'il faut ou non accorder un autre plan de sauvetage de son économie. On sait très peu sur ces propositions qui, selon certaines informations, conformément aux souhaits de l'Union européenne, une hausse de la TVA et autres taxes, ainsi que des coupes dans les dépenses publiques. Le Parlement grec doit se réunir aujourd'hui pour se prononcer sur ces propositions de réforme, en prélude au sommet des 28 pays membres de l'UE dimanche.
L'Allemagne et la France se sont engagées hier à Luxembourg à accueillir un peu plus de 21 000 réfugiés ou demandeurs d'asile, mais l'Europe est encore loin d'un accord global qui soulagerait la Grèce et l'Italie, principaux pays d'accueil. Le point, Michel Joseph.
Les côtes grecques et italiennes ont accueilli ces dernières semaines 40 000 demandeurs d'asile. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés a par ailleurs recensé 20 000 réfugiés dans les pays limitrophes de la Syrie, la Turquie en particulier. Il s'agissait donc pour l'Europe de trouver une solution à cette situation. La France se propose d'accueillir quelque 9 100 personnes sur les deux prochaines années et l'Allemagne 12 100. Des chiffres annoncés par le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et son homologue allemand Thomas de Maizière hier à l'issue d'une réunion avec les ministres ministres des autres pays européens. Le ministre luxembourgeois de l'immigration et de l'asile, Jean Hasselborn, que cite l'AFP, a affirmé que la répartition des réfugiés s'est achevée hier avec des promesses d'accueil portant sur peut-être 22 000 personnes. En revanche, des blocages subsistent en ce qui concerne les demandeurs d'asile. Selon le HCR, 78 000 migrants sont arrivés en Grèce depuis le début de l'année.
Et maintenant, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Les administrations maritimes francophones d'Afrique se réunissent pour la première fois à Abidjan. Objectif, identifier les enjeux pour permettre l'amélioration du commerce maritime. Les différentes législations nationales seront passées en revue afin de mieux mutualiser les efforts pour renforcer la coopération entre les États. Le Burkina Faso obtient près de 19,6 milliards de francs CFA pour une meilleure sécurité alimentaire dans l'est du pays. Ce prêt accordé par l'Agence française de développement devrait permettre d'améliorer les conditions de production et de commercialisation des produits de l'agriculture et de l'élevage grâce à la réhabilitation des infrastructures rurales. 35% des familles vivant dans l'est du Burkina Faso sont exposées à une insécurité alimentaire chronique. Succès des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Des échanges qui ont été multipliés par 3 en 10 ans et qui atteignent désormais 290 milliards de francs CFA en 2014. La réhabilitation de la ligne ferroviaire Abidjan-Ouagadougou et l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou figurent parmi les grands projets économiques entre les deux pays.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour.
Bonjour Idrissa.
Tirage au sort du tournoi de football des Jeux africains.
Le tirage au sort du tournoi a été effectué hier au siège de la Confédération africaine de football, au Caire. Le Congo, pays organisateur, est épargné dans le groupe A avec le Soudan, le Zimbabwe et le Burkina Faso. Alors que dans le groupe B, on parle déjà de groupe de la mort, le Ghana, le Sénégal, l'Égypte et le Nigeria. Je vous rappelle que ces Jeux africains débuteront en novembre à Brazzaville.
Argentine, première nation mondiale de football, c'est officiel.
En dépit de sa défaite en finale de la Copa América face au Chili, l'Albicéleste a pris la première place du classement FIFA au détriment de l'Allemagne, championne du monde en titre. Prenant en compte la première journée des éliminatoires de la CAN 2017, cette édition est riche en évolution pour les pays africains. A noter que l'Algérie est 19e, plus 2 places, et la Côte d'Ivoire 21e, plus 3 places. Ces deux nations africaines devancent désormais la France qui est 22e. Le plus gros recul à mettre au détriment de la Centrafrique, 170e, moins 29 places, et l'une des plus belles progressions pour le Swaziland, 138e, plus 24 places.
Tennis, tournoi de Wimbledon.
La numéro 1 mondiale Serena Williams, grâce à une puissance diabolique, a encore maté la Russe Maria Sharapova en 2-7, 6-2, 6-4. Ce sera la 8e finale à Londres pour la cadette des sœurs Williams, qui vise une 6e couronne et un 21e titre en Grand Chelem pour se rapprocher un peu plus du record de l'Allemande Steffi Graf. L'Américaine de 33 ans, victorieuse à l'US Open l'été dernier, à l'Open d'Australie et à Roland-Garros cette saison, affrontera l'Espagnole Garbine Muguruza, 20e joueuse mondiale. L'Espagnole de 21 ans s'est qualifiée pour sa première finale en Grand Chelem en éliminant la Polonaise Agnieszka Radwanska en 3-7, 6-2, 3-6, 6-3.
Sixième étape du Tour de France.
Le Tchèque Zdeněk Stybar a enlevé l'étape hier à l'arrivée au Havre, marquée par la chute de son coéquipier, l'Allemand Tony Martin, porteur du maillot jaune. Daniel Tekleyamanot a marqué l'histoire du Tour de France en devenant le premier Africain à endosser le maillot à poids du meilleur grimpeur. Le coureur érythréen a qualifié de jour extraordinaire pour son pays et pour l'Afrique cette journée. Et ce 2 ans après, ce jour de 2013 où le Sud-Africain Daryl Impey était devenu le premier Africain à endosser le maillot jaune.
Athlétisme Meeting League de Diamants de Lausanne.
Le champion olympique Mo Farah, de retour à la compétition, s'est imposé hier soir dans le 5000 mètres en 13 minutes 11 secondes 77 centièmes. Le Britannique, champion olympique des 5000 et 10 000 mètres à Londres, qui a peu couru cette saison, a mené la quasi-totalité de la course. L'Américain Justin Gatlin a poursuivi sa domination sur le sprint mondial en remportant le 100 mètres devant le Jamaïcain Asafa Powell et l'Américain Tyson Gay.
NBA, King James reste à Cleveland.
Oui, LeBron James, l'une des grandes vedettes de la NBA, a prolongé pour 2 ans avec les Cavaliers de Cleveland. Il a signé un contrat de 49,6 millions d'euros. On rappelle, Idrissa, que les Cavaliers ont perdu la finale NBA face à Golden State.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidounia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les réactions continuent concernant l'audition et l'inculpation de l'ex-chef de la junte guinéenne, Moussa Dadis Camara, a été entendu mercredi par 2 juges guinéens qui se sont rendus à Ouagadougou où il vit en exil depuis 5 ans. La répression de la manifestation des opposants à la candidature à la présidentielle de M. Camara le 28 septembre 2009 à Conakry avait fait au moins 157 morts et 109 femmes violées. Joint par Bagassi Koura au Conakry, Seloud Alain Diallo, chef de file de l'opposition, pense que cette inculpation est politiquement motivée à cause de l'alliance récente entre son parti, l'UDG, et celui de Dadis Camara. On écoute Seloud Alain Diallo.
Il y a 6 ans que les événements du 28 septembre ont eu lieu. En octobre 2013, déjà Michel Fakonde disait qu'il faut abandonner ce dossier. Il y a eu des crimes beaucoup plus odieux que ça avant et qu'on n'a pas traité judiciairement ce dossier-là. Il ne voyait pas de raison pour laquelle on traiterait spécialement les événements du 28 septembre. Moi, en tant que président de l'UFDG, j'ai perdu près de 150 personnes au stade. Il y a eu beaucoup de militantes qui ont été violées. J'ai toujours réclamé la justice. J'ai toujours condamné l'impunité qui semblait être accordée à des gens qui font partie des auteurs ou des commanditaires de ces crimes. Mais je ne souhaite pas aussi voir la justice instrumentalisée par rapport à des besoins de règlement de compte personnel ou à des fins politiques.
Vous l'avez dit, la justice a assez traîné. Peut-être qu'il faut saluer ce déblocage, non?
Non, je m'interroge sur les raisons de cette précipitation. Dès lors que M. Dadis Camara a annoncé son retour dans les prochains jours, et il s'est déclaré disposé à participer, à contribuer à la manifestation de la vérité. On aurait pu attendre, puisqu'il a dit dès après la fin du mois de carême, il rentrait. Et pourquoi on s'est précipité? Pourquoi jusqu'à présent on a traîné les pas? En allant jusqu'à demander s'il était opportun justement de juger les auteurs et les commanditaires de ces crimes, alors qu'il y en a eu d'autres qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement par la justice. Mais aujourd'hui, on se précipite depuis qu'il a dit qu'il est candidat et qu'il envisage de nouer une alliance avec l'UFDG, le parti de M. Seloud Alain. Bon, je trouve que c'est un peu suspect, mais ceci dit, nous voulons que la justice soit faite. Nous voulons que les auteurs et commanditaires de ces crimes-là soient identifiés et déférés devant les tribunaux.
Donc, en clair, ce que vous dénoncez, c'est la justice à la tête du client?
Oui, parce que M. Alpha Condé, pendant les élections, le deuxième tour, avait sollicité l'appui de M. Dadis, qu'il avait obtenu. Dadis avait fait une déclaration publique pour le soutenir. Aux élections législatives de 2013, il avait mené la même démarche. M. Dadis Camara a déclaré qu'il le soutient. Et après les élections législatives, il s'est interrogé sur l'opportunité de continuer justement d'instruire ce dossier du 28 septembre. Mais depuis que M. Dadis Camara s'est déclaré candidat et a annoncé son intention de nouer une relation entre son parti et celui de M. Seloud Alain, eh bien les choses se sont précipitées. Alors ça me semble, c'est une coïncidence, mais sur laquelle on peut s'interroger.
Le chef de file de l'opposition guinéenne, Seloud Alain Diallo.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
En République démocratique du Congo, nouvelle révélation dans l'assassinat de Floribert Chebeya, le chauffeur du colonel Daniel Mukalai, numéro 2 des services spéciaux de la police au moment des faits, a confirmé avoir entendu des policiers faire rapport à son patron de la mission de tuer 3 hommes, parmi lesquels se comptait le défenseur des droits de l'homme, le chauffeur de celui-ci et un autre témoin gênant. Elie Sango a recueilli plus de détails à ce sujet auprès d'un des avocats de Chebeya, maître Kabangele Ilunga.
Chebeya, quand il était là, il a vu comment il est entré et comment Mukalai a demandé à ce qu'on puisse faire entrer dans son bureau le monsieur des droits de l'homme. Ça, il a entendu. Chebeya lui remettra 10 dollars américains. Je pense que c'est ce contact-là qui a fait que les renseignants ne puissent pas oublier le visage de Chebeya. Et quand la suite est arrivée, et que les éléments à la solde de Mukalai lui ont dit vers 23h, 22h, qu'il venait de tuer 3 personnes, c'est alors qu'il a compris que la personne qui était également là a été tuée parce que finalement, on avait montré la photo à la télévision et il avait reconnu qu'effectivement, c'était la personne qui était avec lui en contact ce jour-là. Mukalai et sa femme ont tenté de suborner le renseignant en faisant des prêts sur lui jusqu'à l'amener devant le chef de quartier où il a fait une déclaration. Mais curieusement, c'est une déclaration qui enfonce également Mukalai parce que Mukalai souhaitait qu'il fasse une lettre d'après laquelle il ne pourrait jamais témoigner en justice qu'il connaissait le problème. Et qu'il puisse dire en justice que c'était des défenseurs de droits humains qui lui auraient demandé de venir témoigner à charge de Mukalai.
Il y aurait eu un garde du corps et les chefs coutumiers qui auraient dit le contraire de ce que le chauffeur a déclaré aujourd'hui au tribunal.
Non, au contraire. De la prison, il avait appelé le monsieur pour lui dire de ne pas témoigner. Alors Mukalai s'est justifié en disant s'il l'avait appelé, c'était parce que le monsieur était en train de propager le faux bruit. Mais le chef de quartier dit que jamais dans le quartier, il a entendu de faux bruit propagé par le renseignement d'aujourd'hui. Donc même le chef de quartier contredit M. Mukalai. Donc le renseignement d'aujourd'hui reste constant et non contredit par une autre version de fait.
N'avez-vous pas de crainte pour la sécurité du témoin qui a comparu mercredi?
De grandes craintes parce qu'il a cité plusieurs personnes qui sont encore en liberté et qui peuvent facilement inquiéter sa quiétude de son intégrité physique et même morale.
Mais pourquoi n'avait-il pas comparu lors du premier procès?
Il a dit à la cour qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il ne peut pas déposer de lui-même, il prend l'initiative de venir accuser Mukalai. Mais aujourd'hui que la justice a besoin de lui, il a déclaré de dire la vérité, rien que la vérité de tout ce qu'il a connu, qu'il a vécu et qu'il a entendu.
Maître Kabangele Ilunga, un des avocats du collectif de la défense de Floribert Chebeya, joint à Kinshasa.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Au Gabon, leurs discours font rêver une population peu instruite et dont la majorité vit avec moins de 2 dollars par jour, nous dit notre correspondant Jean-Rovis Dabani, qui ajoute que les églises éveillées connaissent un succès fulgurant. La concurrence est rude à tel point que le renouveau charismatique a décidé d'aller en campagne pour ramener, et je cite, « les brebis égarées à la maison ». De Libreville donc, Jean-Rovis Dabani.
Rio, l'un des quartiers populaires de Libreville. Des centaines de personnes amassées autour d'un podium chantent des louanges sous la conduite d'hommes en soutane. Bras levés vers le ciel, ces chrétiens agitent des chapelets exaltés par le rythme de l'orchestre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce rassemblement n'est pas ce que tiennent les églises éveillées, mais une campagne d'évangélisation du renouveau charismatique. On est bien loin du formalisme des messes traditionnelles de l'église romaine. Claude Mitoku est le coordinateur du renouveau à Libreville.
Nous sommes plus de 80% des chrétiens catholiques et c'est vraiment à travers le renouveau, donner la possibilité à tous ceux qui aiment vraiment cette forme de louange, tous ceux qui aiment vraiment ces activités, de pouvoir vraiment prendre part à ces activités du renouveau, de la louange, de la prédication.
À quelques mètres de là, l'ambiance est électrique dans cette église éveillée. Stimulée par la louange répétée, une femme rentre en transe.
Merci Seigneur, merci Seigneur, merci.
La foule hurle de plus en plus fort à chaque fois que le prédicateur prêche. À la fin, le pasteur Charles Foutu tient à souligner.
Nous, ce que nous faisons, c'est exactement dans l'Esprit de Dieu qui travaille. Mais dans les membres charismatiques, si nous rentrons là, nous allons découvrir plusieurs choses qui ne sont même pas bibliques. Mais alors que l'Esprit de Dieu doit agir dans l'Église puissamment en se basant sur ce que la Bible a dit.
Ce discours fait rêver une population peu éduquée, dont la majorité vit avec moins de 2 $ par jour, malgré le 6% du taux de croissance enregistré ces 3 dernières années. À coup de promesses, de guérisons et de richesses, ces églises de réveil drainent des centaines de milliers de fidèles déçus par l'Église catholique. Symbole de cette réussite, l'Église universelle du Royaume de Dieu, plus connue sous l'appellation Arrêtez de souffrir, a inauguré l'an dernier une gigantesque cathédrale au centre de Libreville, pouvant accueillir jusqu'à 15 000 personnes. Pour Wilfried Bouillot, sociologue et auteur d'un ouvrage sur la question, la déception ramène vite à la réalité, le retour à l'origine.
Vous savez, les gens sont à la recherche des raisons d'espérer et les églises évangéliques ont un dynamisme et leurs célébrations sont joyeuses et apportent des solutions nouvelles. Mais attention, quand ces promesses ne se réalisent pas, les gens retournent à leur congrégation d'origine.
Le Gabon compte près de 80% des chrétiens, dont environ 2/3 des catholiques. Mais les églises dites et réveillent gagnent du terrain sous la houlette des pasteurs charismatiques. Libreville, Jean-Rovis Dabané, VOA Afrique.
Selon la Banque mondiale, et nous vous le disions hier, le nombre disproportionné de victimes d'Ebola parmi les agents de santé en Afrique de l'Ouest fait redouter un retour au taux de mortalité maternelle des années 1990 dans les pays d'Afrique de l'Ouest affectés par l'épidémie. Par ailleurs, les économies de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone restent durement affectées par Ebola. On écoute à ce propos Bertrand Badré, directeur général et directeur financier du groupe de la Banque mondiale, qui évoque les leçons à retenir de la crise.
Quelles leçons tirer pour l'avenir? Il y a à la fois, effectivement, d'abord les victimes de la maladie sur place, ensuite la capacité à mobiliser du corps médical localement ou de l'extérieur pour aider. Et donc, effectivement, la santé de ce corps médical est un élément important. Et puis dernièrement, même si c'est l'aspect le moins visible et peut-être le plus sec, les conséquences économiques de la crise. Et donc, c'est cet ensemble de faits tous aussi dramatiques les uns que les autres et qui, ensemble, forment une catastrophe qu'il faut bien comprendre, non seulement pour finir de traiter Ebola, mais surtout pour faire que la prochaine pandémie, car il y aura une prochaine pandémie, on soit beaucoup plus réactif, qu'on soit capable de l'arrêter plus vite.
Les économies du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée ont été largement dévastées par cette épidémie d'Ebola.
Oui, en général, on est très focalisé, c'est normal, on est des êtres humains, sur les décès liés à la maladie. Et le chiffre est tragique, on a plus de 10 000 morts à ce jour d'Ebola. Mais c'est toujours gênant de prendre cette perspective, mais les économies se sont largement arrêtées. Et pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène d'aversion. Les gens ne savent pas très bien ce que c'est, et donc dans le doute, ne commercent plus, ne voyage plus, ne parle plus, ne se rencontre plus. Et petit à petit, c'est une économie qui se paralyse. Et c'est très difficile d'embrayer le phénomène. Et on voit bien qu'il s'exporte d'ailleurs, puisque les quelques personnes qui avaient été identifiées comme potentiellement porteuses du virus Ebola aux États-Unis ou en Europe ont eu des effets sur ces pays.
Se préparer à la prochaine pandémie, comment est-ce qu'on peut s'y prendre?
C'est éviter ce qu'on a fait à peu près à chaque fois, qui est qu'on a très peur au pic de la pandémie, puis petit à petit, les choses se calment et on se dit « bon, bah, c'était pas si grave que ça ». Et on passe à autre chose. Donc ce qu'il faut, c'est profiter du fait qu'on est encore, je dirais, très très ému de ce qui s'est passé avec Ebola, pour ne pas lâcher cette fois et se dire, il y en aura d'autres. Le fait est que depuis 15-20 ans, on en a tous les 3-4 ans. Donc il faut qu'on prépare la prochaine. Et comment est-ce qu'on prépare la prochaine? Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut qu'on reparle des systèmes de santé. Il faut que, par exemple, dans chaque village, dans chaque communauté humaine, il y ait quelqu'un qui soit là, qui puisse dire, attention, il y a un problème. Ça, c'est de la veille de base. Il faut qu'on se prépare, c'est-à-dire qu'on identifie a priori qui est disponible pour aller où. Il faut qu'on travaille avec le secteur privé. On a beaucoup vu dans les pays atteints par Ebola, il y avait des problèmes, par exemple, d'accès à la téléphonie, aux télécommunications. Et après, des opérateurs de téléphone sont venus nous dire, mais si on nous avait demandé, on vous aurait prêté le matériel, etc. Donc il faut qu'on travaille avec le secteur privé pour voir qui est disponible pour faire quoi et qu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Donc on est pratiquement sur une étagère, le plan, clac, et on sait qui fait quoi. Évidemment, tout ça nécessite des moyens, de la finance. Ça ne se fait pas gratuitement. Et c'est là qu'une institution comme la Banque mondiale peut aider, non seulement à définir les conditions de préparation dont je viens de parler, mais aussi comment on paye si quelque chose se passe. Et une des pistes sur laquelle on travaille aujourd'hui, sur laquelle on a des avancées assez sérieuses, c'est de voir comment on peut établir un mécanisme de type assurance. C'est-à-dire que au moment où la pandémie se déclare, elle est officiellement reconnue par quelqu'un qui pourrait être l'OMS, par exemple l'Organisation mondiale de la santé, à ce moment-là, l'assurance paye.
C'était Bertrand Badré, directeur général et directeur financier du groupe de la Banque mondiale, de passage dans nos bureaux ici à Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique, sur la Voix de l'Amérique, en direct de Washington. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique, sur la Voix de l'Amérique.
Cœur de l'info sur VOA Afrique.